Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et je suis très contente parce que là, j'accueille en studio David Trudel Bergamo, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je vous invite à écouter l'émission de la semaine passée où est-ce que je faisais une entrevue avec Marie-Claude Garceau. On parlait des visionnaires et David Trudel, son nom est ressorti quelques fois dans cette entrevue. Allô, David?
Bonjour, Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
Bien, je suis vraiment contente parce que, David, nous, on s'est parlé dans le temps des fêtes. Hein? On a fait une petite pause entre notre travail. Hein? On s'est dit, on fait juste une petite discussion comme ça. Donc, on a jasé ensemble un petit peu. Et je trouvais ça intéressant parce que tu travailles à INCA. Tu es chef des programmes du côté adulte parce qu'il y a la même chose, mais du côté jeunesse.
Tout à fait.
Et en même temps, ben, tu es une personne en situation de handicap visuel. Donc, oui, on le sait, à INCA, on va mettre en lumière beaucoup là, ce qui est en lien avec le handicap, mais c'est pas tout le monde qui travaille à INCA qui a une cécité. Là. Donc, moi-même, je ne savais pas que toi, tu en avais une. Et finalement, en jasant, ben là, je me suis dit, ouais, mais j'aimerais ça, oui, qu'on parle à l'intervenant, mais je veux aussi qu'on parle du gars en arrière, parce qu'on le sait, si tu es intervenant en situation de handicap visuel, c'est sûr que ton parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein?
Oui, il y a peut-être eu certaines petites particularités qu'on peut connaître entre nous.
C'est ça, exactement. Mais si on remonte, là, toi, au niveau visuellement, là, est-ce que tu es né avec une cécité? Est-ce que c'est arrivé graduellement?
Pour répondre à la question, c'est arrivé graduellement. Bien sûr que dans mon cas, comme pour beaucoup de personnes, c'est une maladie génétique.
Ouais.
Dans mon cas, on parle de la rétinite pigmentaire.
Mm-hmm.
Évidemment, c'est une maladie dégénérative et sur lesquelles les premiers symptômes, dans mon cas, sont arrivés à l'adolescence. Les premiers symptômes significatifs,
ouais.
Mais rétrospectivement, maintenant que j'ai plus de connaissances sur la pathologie en soi, je peux bien me reconnaître dans plusieurs symptômes à la petite enfance aussi.
OK. Ouais. Mais toi, vu que c'est la rétinite pigmentaire, est-ce qu'on parle de quelque chose qui est génétique?
Oui, tout à fait.
OK. Donc, dans ta famille, il y en a d'autres?
Non, pas du tout.
Ah, mais ils sont porteurs?
Non, pas nécessairement, parce que qui dit génétique ne dit pas nécessairement une lignée héréditaire dans beaucoup de cas.
Ah.
Oui, et il y a plusieurs manières, mais comme on n'est pas dans une entrevue sur la génétique, on
va
passer.
Oui,
mais
c'est
je suis, dans mon cas, un peu le patient zéro.
Ah oui?
Ouais, de ma propre lignée.
Donc,
parce qu'il n'y a pas de cas connus. Il y a peut-être des ancêtres inconnus qui ont eu, mais qui ne sont pas connus. Fait que techniquement, je suis le patient zéro de ma lignée.
Donc, tu pourrais être le premier...
Oui. C'est plate d'être initiateur de cette manière-là.
C'est ça que ta future lignée pourrait avoir la rétinite pigmentaire.
Ben oui, c'est pour ça que j'ai gardé toujours l'œil ouvert et vigilant vis-à-vis de mes enfants.
Oui, ben c'est ça, parce que t'as des enfants.
Oui.
T'en as combien?
J'en ai deux.
T'en as deux. Mais est-ce que justement, là, la question, c'est ça.
La question qui tue.
Est-ce que tu as deux enfants en situation d'handicap visuel?
Pas du tout, et j'en suis grandement heureux.
Uh-huh.
Mais ça a été quand même des soucis, des inquiétudes pour moi et la maman dans le temps des maternités, des rendez-vous en génétique pour investiguer.
Uh-huh.
Et grandement pour nous, comme la maman a zéro problème visuel, c'était de l'ordre de 1% les chances de transmission. Donc, c'est tout à fait normal.
Ben oui, c'est ça. Donc ça ne s'est pas transmis.
Non. Et si, d'ailleurs, il y a des signes précurseurs qui, un jour, arrivent, au moins, j'aurai l'œil vigilant et connaisseur des situations, donc en possibilité d'agir beaucoup plus vite pour mes enfants que dans ma propre histoire.
Oui, c'est ça. Mais là, en ce moment, est-ce que tu as encore un résidu visuel? Tu vois-tu encore un petit peu?
Oui. Je suis considéré comme semi-voyant encore.
Okay.
J'ai un résidu visuel, on va dire, entre 5 et 3 grosso modo, c'est beaucoup plus de l'ordre des ombrages, des luminosités en différents contextes d'éclairage, vraiment. La rétinite pigmentaire, c'est vraiment les contrastes qui, qui la caractérise. Ouais. Donc oui, en ce moment, je suis semi-voyant.
OK. Donc, ça veut dire que toi, dans le noir, le soir, tu dois plus voir grand-chose.
Non, je vois les halos des réverbères et des lumières de voiture.
Oui, c'est ça, c'est ça. et je suis comme curieuse parce que là, Marc-Claude, elle nous parlait, tu sais, que dans le fond, tu es un sportif aussi. Tu es intervenant. Donc, ta formation, est-ce que c'est travailleur social par hasard?
Oui, tout à fait. De profession, je suis travailleur social.
Et là, c'est vraiment très, très drôle ce que je vais dire parce que ça vient de m'allumer là, à l'instant. Quand tu as dit que tu avais deux enfants, est-ce que on se serait pas déjà parlé au téléphone jadis, il y a quelques années, quand est-ce que par hasard, tu faisais du... Tu sais, au niveau visuellement, là, tu sais, que ça fait finalement un bout là, que tu as cette vision-là, là, tu sais, que c'est quand même... et que tu faisais beaucoup de sport, là, même du... skate, là, tu sais, du roulis-roulant, là, du...
Non, ça, tu confonds avec un autre David.
Un autre David?
J'ai jamais fait vraiment de skate. En tout cas, je me permettrais pas de le dire.
Hey! Bon, ben OK, c'est pas toi. Mais il voyait un peu comme ça, là, une espèce de petite demi-lune, et il y avait deux enfants.
Non, c'est pas moi.
Puis il était travailleur social. Ça veut dire que t'as pas travaillé chez Accro, là, tu sais, pour les hommes violents.
Non, j'ai été intervenant psychosocial dans d'autres domaines autres que INCA par le passé, mais jamais à Accro.
OK.
Ce n'est pas moi.
Pas en violence XY, là, conjugale et tout ça, là.
Non, j'ai travaillé en itinérance, j'ai travaillé en réduction des méfaits.
Wow!
Aussi,
OK.
Mais jamais dans le domaine spécifique de la violence conjugale.
OK. Donc, il y a un autre David à quelque part qui...
Oui. Appel à tous.
Appel à tous.
Trouvons le David.
Hey, travailleur social avec deux enfants. Non, mon santé, il ne doit pas en avoir tant que ça.
Non,
là,
non,
hein?
Non, non.
C'est pour ça que je dis peut-être deux. Mais, OK, mais toi, là, justement, vu que tu as commencé avant d'aller à INCA, qui est plus spécifique au niveau de l'handicap visuel, INCA, fait juste nous rappeler, là, parce que quand on est dans le monde, on sait c'est quoi INCA, mais c'est pan-canadien, là.
Oui, tout à fait. INCA, c'est l'acronyme francophone de CNIB, qui est le Canadian National Institute for the Blind.
Yeah.
En français, c'est l'Institut national canadien pour les aveugles.
Oui.
Maintenant, on dit INCA.
Oui.
On n'est pas en canadien. C'est plus de, je pense, 70 bureaux comme le nôtre partout au Canada. Mm. C'est plus de 105 ans d'existence.
OK.
Et c'est beaucoup d'expérience et de connaissances pour... soutenir les personnes qui vivent avec un handicap visuel et leur entourage, briser les barrières que l'handicap visuel peut amener, puis changer ce que ça signifie être aveugle pour pas reprendre nos slogans.
Oui, non, c'est ça. Mais comme là, maintenant, tu travailles là, mais avant ça, quand tu as parlé d'itinérance, réduction des méfaits, on s'entend, tu travailles pas au niveau de l'handicap à ce moment-là.
Pas du tout.
Bon, fait que naturellement, toi... C'est vers là que tu es allé. Tu es allé vers des clientèles qui ne sont pas en situation de handicap.
Non. En fait, moi, dans mon histoire, c'est quand même très récent que je fréquente les organismes, que je m'investis au sein de ma propre communauté. Parce que, comme pour beaucoup de gens de notre communauté, j'étais le seul, on va dire, aveugle de service de mon coin, de ma région.
Oui, c'est ça, moi aussi.
Et qui n'a pas gravité du tout au niveau scolaire, de prise en charge dès la naissance, pas du tout.
Non.
Je suis rentré vraiment sur le tard.
Oui, moi aussi.
Ben, c'est ça.
Vraiment très, très sur le tard, là. Tu sais, il n'y avait rien, là. En fait,
je comprends.
C'est ça, oui.
Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait une scolarité, on va dire, tout à fait normale, des expériences de travail au mieux que je pouvais avec les capacités que je pouvais, avec les mécanismes de défense et de survie qui étaient adéquats à l'époque.
Ouais.
Et ben, c'est ça, hein, des expériences professionnelles diverses.
Mm-hmm.
Tout ça qui m'amène à un moment donné à INCA par le plus pur des hasards et plus de 6 ans plus tard à être le chef du programme psychosocial.
Donc, ça veut dire que ça fait 6 ans que tu es à INCA, là, donc avant, c'est ça. Donc, ça fait pas, tu sais, ça fait 6 ans. Ça fait quand même pas si longtemps que ça. Là. Donc, tu as fait plus longtemps en intervention...
En extérieur.
En extérieur, oui. C'est ça. Oui. Puis quand tu dis justement, parce que tu sais, je me reconnais vraiment là au niveau de... Moi, j'étais allée étudier en éducation spécialisée, là, donc mm-hmm. même chose. Là. On est dans un milieu où est-ce qu'on se dit ça va être super accessible, plein d'adaptations. On s'entend, on n'est pas en informatique, là, tu sais. On est dans quelque chose de l'humain et finalement, on se rend compte que... C'est pas simple, hein? Tout d'un coup, je suis la seule qui est handicapée dans la gang. Et là, je dois me battre pour, en plus, dire... je peux pas être sur une cour d'école. Là. Si vous mettez sur une cour d'école, j'étais un danger public. Ouais. Là, pour. Mais faut-tu te battre pour ça? C'est pas naturel. Sinon, on va dire, trouve des façons de t'adapter pour rester sur la cour d'école. Toi, tu es allé en itinérance, réduction des méfaits. C'est pas déjà des clientèles.
C'est des clientèles simples. Avec des besoins particuliers, dans des contextes particuliers.
Oui.
Mais à la distinction de l'histoire que tu me racontes, pour une longue partie de ma vie, je n'ai pas pris en considération le fait que les autres pouvaient m'aider. J'ai pris en considération que c'était moi le seul et unique vecteur d'avancement, de progression et que je devais me mettre de l'avant avec ce que j'avais.
Oui.
Donc, en bien comme en mal, j'ai souvent occulté le fait de parler de mon handicap visuel qui était bien meilleur par le passé. C'était pas du tout la même réalité.
Ben oui.
Mais je me suis privé du bon comme du moins bon des situations, mais en faisant toujours de mon mieux. Puis des fois, en passant aussi entre les mailles de certains filets.
Ah oui, mais je comprends par contre ce que tu veux dire, parce que moi aussi, là, c'était ça, là, c'est comme je vais trouver une façon et je vais compenser et ça paraîtra pas
exact.
Que j'ai un handicap. T'sais. Moi, j'arrivais à l'école, puis j'étais en mesure de te dire mon petit bonhomme, il est habillé comment, puis c'est comme ça que je le repérais. C'est à cause d'école.
Okay.
Mais c'était une façon que j'avais trouvée. J'ai dit, il faut que je le sache là, le matin. Là. OK, parfait. Lui, il est habillé en vert. Fait que c'est à cause d'école. Je me tiens pas loin de... Et là, je spot ma petite tache verte.
OK.
Donc, fait que je comprends ce que tu veux dire, de dire que tu fais pas mal ce que tu peux. Mais ça amène quand même, je sais pas pour toi, mais ça peut amener quand même de la colère, là, tu sais, des fois, de dire, OK, mais là, y a-tu quelqu'un qui va m'aider un jour?
Pour la petite parenthèse, c'est sûr que la demande d'aide, j'ai quand même eu du soutien de la part d'amis, beaucoup de la famille, bien sûr. Qui, eux, étaient au courant et respectaient mon choix de l'époque. Mais le système de santé n'est pas parfait. C'est pas là une critique, mais moi, à l'âge de 14 ans, mon ophtalmologiste de l'époque m'avait dit « Tu perds la vue, on sait pas pourquoi.
Ah.
Fais ta vie. »
Ouh.
Fait que du haut de mon humilité de 14 ans, j'ai dit « Ah oui, c'est ce qu'un spécialiste peut me répondre, ben check-moi bien. » ça a été la dernière fois dans 10 ans que j'ai mis les pieds dans une clinique d'ophtalmologie parce que je l'ai pris au pied de la lettre.
Oui, mais c'est parce que quand tu dis le « check-moi bien », là, ça, je comprends très bien parce que moi aussi, c'est ça. Ah ouais? Ben, check-moi bien. Sauf que ça, ça amène des fois que tu peux te mettre un peu les pieds...
Oui.
C'est ça. Tu penses que, mais finalement, comme tu dis, tu passes entre des cracks.
C'est pour ça que je dis en bien comme en mal. Hein, parce qu'il y a les expériences de la vie composées de bons coups, de moins bons coups et de très mauvais coups.
Sauf que la différence, c'est que toi, tu avais 14 ans. Moi, par contre, la première fois que j'ai dit ça, c'est quand je suis rentrée en éducation spécialisée puis j'ai regardé mon prof puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu y arriveras pas. » À partir de ce moment-là, j'ai dit, ben check-moi bien. Après ça, moi, mon mindset était tout le temps comme ça dans mes expériences de travail. Okay. Check-moi bien. C'était vraiment la phrase que je disais. Mais je t'ai rendu, tu sais, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Ben toi, c'est 14.
Tu l'as
commencé beaucoup plus jeune que moi, là. Parce qu'à 14, je n'étais même pas au courant encore que j'avais un handicap. Tu sais, dans le sens que mais j'avais une myopie. En fait, on ne savait pas encore que c'était un handicap, là.
Quand même, à l'époque, à l'âge de mes 14-15 ans, on appelait ça une myopie sévère.
Ah, bon.
Ils appelaient ça comme ça, dans le sens hein, que la dégénérescence visuelle n'était pas encore assez accrue.
Non.
Donc ça, après ça, ils ont pensé un peu de l'errance diagnostique. Est-ce que c'est une atrophie du nerf optique? Mm-hmm. Oui, non. Maintenant, c'est confirmé par la physiologie de la pathologie que c'est
une rétinite. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à 14, maintenant, dans notre temporalité de là, ils diraient que tu as une rétinite pigmentaire à 14 ans, là, sont capables
oui,
de,
oui, oui,
c'est ça, là, de dire ça. Mais là, ça veut dire que là, toi, à partir de ce moment-là, là, quand tu es au secondaire encore, est-ce que tu avais déjà une idée de dire hey, « moi, je veux être intervenant, je veux aller en relation d'aide. » En même temps, tu es très sportif, donc est-ce que...
Écoute, oui... Je me rappelle le moment exact. J'avais pas une idée précise, mais je me rappelle du moment où je discutais avec mes copains de l'époque et qu'un tel savait qu'il voulait devenir programmeur informatique et l'autre, whatever quoi.
Ouais, ouais.
Moi, je disais, je sais pas ce que je vais être dans la vie, mais la seule chose que je sais, c'est que je vais aider le monde à être meilleur.
Oh, wow!
C'est la seule chose que j'étais convaincu.
Tu disais ça quand t'étais encore au secondaire.
Ouais.
Wow! OK, mais tu savais pas encore par quel chemin. Tu t'as pas dit
exactement.
Je vais être travailleur social ou psychologue ou...
Après ça, c'est l'idée de la psychologie, ouais, de devenir un psychologue, oui, grandement. Ça m'a habité très, très longtemps.
OK.
Après coup, un reality check m'a dit, ben écoute, puis j'ai découvert aussi ce qu'est le travail social et la distinction entre les deux disciplines.
Qui n'est pas du tout la même chose.
Non, qui n'est pas du tout la même chose.
C'est ça.
Donc, c'est ça, le travail social m'a appelé. Puis j'en suis grandement content maintenant.
Et c'est une... Travail social, t'as appelé, mais justement, le cégep, la technique?
Le cégep, en pré-universitaire.
Donc, t'as commencé, c'est ça. Donc, ça veut dire que t'as fait tes premières armes là, au cégep.
Oui.
Une technique.
Non, mais c'était pas une technique. C'était pas la technique en travail social.
Ah,
c'était un pré-universitaire.
Okay.
Après ça, j'ai été à l'université pour faire mon baccalauréat
en travail social.
Okay. J'ai un autre baccalauréat aussi en intervention par cumul de certificats accès criminologie.
Ah, ben oui.
Ouais.
Oui.
Oui, oui.
Ben oui, tu es allé chercher 3 certificats, mais dans la même branche, là.
Ouais.
OK. Puis toi, à ce moment-là, quand tu es allé faire ton bac, parce qu'habituellement, tu sais, ils nous mettent en contact, tu sais, avec justement différentes clientèles, tu sais, il y a ça, qu'est-ce que tu as le plus envie, tu fais tes stages.
Ouais.
Donc là, toi, à ce moment-là, est-ce que tu savais dans quoi tu voulais aller?
Écoute, j'ai toujours été très intéressé par la psychologie. Maintenant, le grand champ de la psychologie, on appelle ça souvent la santé mentale.
Oui.
J'ai toujours eu un grand intérêt pour ça. D'ailleurs, mes premières armes d'intervention, ça a été à titre de bénévole à Suicide Action Montréal sur les lignes téléphoniques.
Mon Dieu! Puis ça, c'est pas simple, hein, d'aller faire...
Non?
Même juste être bénévole, là?
Non. Mais c'est une excellente école.
C'est une excellente école, mais ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Là.
Non, pas du tout. Puis c'est ce qui m'avait frappé lors de l'entrevue de groupe pour les bénévoles, parce que c'est pas pour tout le monde, donc
on
est quand même trié.
Oui, puis trié beaucoup.
Oui, beaucoup, beaucoup. Et les formations sont superbes, d'ailleurs. Mm-hmm. J'espère que c'est toujours le cas maintenant.
Oui, tout
et
à fait.
Et l'accroche qui m'avait, moi, beaucoup parlé, c'était si le bénévolat vous intéresse, ben dites-vous bien qu'ici, c'est le hardcore du bénévolat par les situations que vous allez rencontrer.
Exact.
Fait que moi, je me disais, ben écoute, si j'ai besoin d'un milieu pour apprendre et me tester, ben commençons par là.
Mais c'est ça. Fait que déjà, on voit là, que toi, tu n'es pas le genre à aller dans le plus simple. Hein?
Non.
C'est ça. Donc, on va passer tout de suite par le chemin le plus difficile. Puis ensuite, parce que je pense probablement que ça t'allume aussi, ce côté-là. Là. Peut-être un petit peu plus dans l'adrénaline.
Bien, le sens du défi, de me mettre au défi, de progresser,
c'est,
je pense que c'est quelque chose qui m'habite la flamme vraiment.
Mm-hmm.
De faire des essais, des erreurs, d'apprendre, de recommencer, de revenir à la base et d'avancer, c'est ce qui m'habite dans à peu près toutes les sphères de ma vie.
Bien, c'est ça. Puis ça veut dire que là, quand tu as commencé avec cette formation-là, bien, bénévolement, mais est-ce que là, tu le savais, OK, parfait, bien, moi, je vais aller avec une clientèle criminalisée, parce que comme tu es allé faire de la criminologie, on le sait, là, c'est pas parce que tu vas faire un certificat en criminologie que tu veux être nécessairement avec des détenus ou des gros criminels. Là.
Mm-hmm.
C'est ça, mais c'est que tu en apprends plus sur la trame, on va dire, de la délinquance, un petit peu plus. Donc là, toi, c'est comme si tu savais que c'était un peu là-dedans que tu voulais t'en aller, avec nos petits délinquants. Là, comme.
J'ai toujours eu, on va dire, une certaine, peut-être, appétence naturelle en ce sens-là, qui suit la ligne du défi.
Oui.
Pourquoi être confortable quand ça peut être très inconfortable?
Ben oui. exactement.
Sûrement que c'était des choix peut-être un petit peu inconscients à ces moments-là, mais comme on en discute, ça fait beaucoup de sens.
Ben oui.
Maintenant, par exemple, tu vois, pour revenir à ta question initiale, travailler dans le domaine de l'handicap visuel, c'était pas dans ma lignée de mire du tout.
Ah non, mais moi-même, c'est jamais... Moi, je me disais pas, je vais aller intervenante avec des personnes en situation de handicap. Alors que j'aurais été la meilleure personne placée.
Bien
non,
sûr.
Mais je disais que j'étais la meilleure personne placée pour intervenir dans toute situation d'adrénaline, de se virer de bord, d'être en mode hyper-vigilance.
Okay.
Moi, j'avais un naturel, tu sais, je vais dire, il y avait une situation d'urgence, là, puis j'étais là. T'sais, en fait, okay. Premièrement, oui, ça m'allumait, là, littéralement, okay. Parce que j'étais bonne là-dedans. Alors, je me suis retrouvée dans toutes sortes de situations qu'il faut agir maintenant et ça me valorisait aussi beaucoup, là, tu sais, dire, okay. Hey, c'est moi qui ai l'handicap visuel, mais c'est moi qui est la plus apte.
Ouais.
À intervenir.
Oui, je comprends.
Mais non, moi non plus, je ne voulais pas travailler dans l'handicap. C'est comme si c'était quasiment un échec pour moi, là.
À l'époque, ça, c'est intéressant. Ça pourrait faire, ça comme ça, mais le sujet d'une émission en tant que telle,
ah, oui, complètement.
Ce paradoxe-là, mais non, je te comprends totalement.
Et là, ça veut dire que là, comme tu as parti ça plus, on va dire, plus dans le rough, là, mm-hmm. dans le rough and tough, à quel moment, tout d'un coup, parce que là, si tu n'étais pas non plus dans le monde de l'handicap visuel, comme tu dis, fait que probablement que tu n'avais même pas connaissance nécessairement, tu sais, de INCA, puis que tu pourrais aller dans des groupes de soutien ou toutes ces choses-là, probablement que tu n'allais pas là non plus.
J'avais eu une légère expérience avec INCA par l'entremise de mon centre de réadaptation et de mon intervenante de l'époque, Isabelle Boisvert, qu'on salue grandement.
Oui, mais là, c'est sûr, c'est à toi que j'ai parlé. C'est Isabelle Boisvert qui m'a donné le contact du fameux David, travailleur social.
Ben écoute, peut-être qu'elle elle a insinué que je faisais du skate.
Peut-être.
On sait jamais.
Peut-être.
J'ai-tu une face de skater?
Ben, elle a dit qu'il était super sportif.
Beau bonhomme, intelligent et tout. Oui. Ouais, ben c'est moi.
Ben là, ça doit être toi.
Ça doit
être moi. Ben là, tranquillement, là, ça se rapproche, là.
Ben écoute, probablement que ça doit être bon. On va valider avec Isabelle si tu veux nous appeler. Non,
c'est ça. Ben, c'est Isabelle qui m'avait mis en contact avec le fameux David, travailleur social.
Ben oui, ben écoute, ouais,
c'est
par
drôle.
Son intermédiaire que je me suis inscrit pour une première fois. Je me suis initié à un groupe d'entraide via INCA à l'époque. J'étais avec plusieurs femmes de ma tranche d'âge de partout au Québec.
Ouais.
Ça avait été une belle expérience. Après ça, plusieurs années, c'est resté en suspens. Plus aucune activité, en fait, ça avait été la seule.
Ouais.
Et au fil de mon bac en travail social, pour mon dernier stage de dernière année, je devais faire une intervention dans un groupe et je recevais toujours les pubs d'INCA.
Ah oui.
Et j'en discutais avec mon épouse de ma requête, de ma quête de stage et tout. Et par hasard, j'ouvre le courriel, puis c'est l'affiche des activités que je présente moi-même maintenant. Et ça me saute au visage. Je fais comme, je vais les appeler.
Ah oui?
Je fais, c'est copier-coller ce que je cherche. Le descriptif colle à 100% sur ce que moi, je recherche.
OK.
Alors, j'ai contacté ma collègue Najla Nouri, qui en était la responsable à l'époque.
Oui.
Elle m'a accueilli. J'ai pu faire mon stage. Et j'ai découvert plus ample profondeur INCA, la communauté. J'ai fait mes premières armes en animation, intervention de groupe avec les gens de notre communauté.
Mm-hmm.
Et suite à ce 6 mois de stage-là, moi, j'avais déjà... j'étais engagé au CLSC de l'Est de l'île de Montréal.
Oui.
Et INCA, quand je venais rendre mon matériel de stage, mon ordinateur, on m'a offert une entrevue.
Ah ben!
Et je me suis prêté au jeu grandement parce que c'est des personnes que j'appréciais. Puis honnêtement, j'ai fait un choix de cœur puis je m'en suis même pas gêné pour le dire. Choix de tête, choix de cœur. J'ai fait le choix de cœur, voilà, plus de 6 ans.
Ben oui, et c'était encore là. Donc, clairement que tu as fait un choix de cœur et que ça, c'est encore quelque chose qui correspond à ce que tu souhaites et ce qui te nourrit, veut pas, là, tu sais. Mais là, tu es devenu... Mais au départ, tu n'étais pas chef des programmes.
Non, pas du tout.
C'est ça, tu étais... comment qu'il l'appelait?
J'étais l'intervenant psychosocial, après ça, coordonnateur des services psychosociaux.
Oui.
Après ça, j'ai fait une petite année en tant que chef du programme jeunesse, qui est tenu maintenant par ma collègue Salma Moudrika.
Oui.
Et par la suite, il y a eu un remaniement. Ma collègue Najla a eu d'autres fonctions hiérarchiques supérieures. Oui. Et on m'a offert, dans le fond, le poste que, dans le programme que j'avais tenu le plus longtemps avec Najla. Et j'en suis devenu le chef depuis maintenant, je pense, bien 3 ans.
Ça fait 3 ans que, à peu près là, que tu es chef de programme.
Ouais, 2-3 ans, oui.
Ça veut dire que c'est toi qui crée les programmes, les activités, les formations, un petit peu là, tout ce qu'on peut retrouver à INCA.
Oui, bien évidemment, nous avons des manières de travailler à INCA, comme par exemple, nous misons sur l'intervention de groupe.
Oui, beaucoup.
Que ce soit au travers des formations techno, défense de droit ou même les activités psychosociaux.
Oui.
C'est vraiment l'intervention par le groupe. C'est un choix délibéré et philosophique de notre part. On mise sur le groupe en tant que vecteur d'avancement.
Oui.
Dans certains autres milieux, c'est de l'intervention individuelle, puis c'est très correct, mais nous, c'est un choix d'orientation.
Oui, oui, oui.
Il y a des activités qui sont prédéfinies par justement les gens qui m'ont précédé au poste, qui ont construit le programme psychosocial avec du super matériel, parce que c'est du bon matériel qui cible des enjeux généraux.
Exact.
Parce que peu importe notre place sur le spectre de la cécité, nous avons beaucoup plus souvent qu'autrement des enjeux très similaires.
Ah, tout à fait, tout à fait. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est que moi, je voulais qu'on fasse ta connaissance comme l'humain avant, mais après ça, tu vas pouvoir venir nous parler vraiment plus comme spécifiquement, OK, là, on a telle activité, on travaille tel enjeu, puis on va pouvoir rentrer plus dans le concret de ce que fait INCA finalement. Mais moi, je trouve ça tout le temps intéressant de dire, mais regardez le gars en arrière, tu sais, parce que souvent quand on est intervenant, on est comme un peu en arrière, hein, tu sais, c'est pas nous qu'on met en lumière. Moi, peut-être parce que je viens de ce milieu-là et je trouve que c'est le plus beau métier. Là, je dis ça, tu sais, je suis animatrice à la radio, mais en fait, c'est parce que c'est l'intervenante qui est animatrice à la radio.
Yes.
Mais pour moi, l'intervention, c'est le plus beau métier. Cette relation d'aide-là, moi, il n'y a rien qui me fait le plus de bien, juste quand quelqu'un m'appelle pour me demander de l'aide. Là,
je comprends. Hein? Ouais, je suis d'accord
c'est
avec
ça.
Toi. C'est un des plus beaux métiers du monde.
Je trouvais ça important de te mettre en lumière en premier pour voir, OK, t'sais, on va avoir du fun à aller finalement découvrir INCA et faire des activités avec toi, des groupes de soutien, tout ça. Mais ça, on va pouvoir en reparler.
Bien sûr.
Merci beaucoup, David Trudel-Bergamo. Ça a été un grand plaisir.